VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. Le Ghana élit mercredi son nouveau président. Un moment charnière pour le pays, selon le principal candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo, qui se présente pour la troisième fois à la présidence et fera face mercredi au président sortant, John Mahama, qui l'avait battu en 2012. Le chef de file du NPP, Nouveau Parti Démocratique, a accusé le parti au pouvoir d'encourager les violences pendant que la police détourne les yeux, alors que le Ghana est traditionnellement perçu comme un exemple démocratique en Afrique. Les craintes que le Ghana perde son image pacifiste ont dominé cette campagne présidentielle. Le parti de l'opposition a dénoncé des tensions, des intimidations sur ses électeurs et a questionné l'indépendance de la commission électorale. La décision de Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite à la présidentielle en Gambie continue de faire les choux gras de la presse sur le continent. Le départ de ce président au pouvoir depuis 22 ans va peut-être aussi changer la donne dans le conflit casamançais qui oppose l'État sénégalais aux rebelles indépendantistes de cette région du sud entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Amadou Sylla, président de SOS Casamance, perçoit une réelle opportunité de paix.
Oui, absolument. Parce qu'il y a jamais, quoi qu'on dise, c'est un acteur clé en tant que président de la République gambienne, parce que la Gambie, c'est un pays qui partage le Sénégal en deux, qui fait que la Casamance, effectivement, n'est pas tout à fait reliée dans l'espace territorial, dans l'espace national. Donc, de ce point de vue-là, je crois que quelqu'un comme Yahya Jammeh, qui n'a certainement pas facilité le dialogue entre le pouvoir et les gens du MFDC, où il y a un problème de communication réelle qui s'est posé. Et je crois que son départ, ça ouvre une nouvelle page. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a un vrai espoir, effectivement, qu'on peut attendre du nouveau régime gambien et aussi du régime sénégalais, parce que le dialogue, ça s'est fait en deux. Et il faut de la hauteur, en tout cas pour les deux parties, pour l'ensemble des acteurs, pour arriver effectivement vers une solution beaucoup plus attendue et beaucoup plus constructive.
Amadou Sylla, président de SOS Casamance. On reste au Sénégal. Une conférence sur la paix et la sécurité se tient aujourd'hui et demain à Dakar. Elle doit s'achever par une rencontre entre plusieurs chefs d'État représentant diverses régions du continent. Précision à Dakar avec le journaliste et spécialiste des questions de défense et de sécurité Ibrahima Khalil Ndiaye.
Fondamentalement, le but est de mettre en contact des experts, des professionnels, des acteurs du monde de la sécurité, de la diplomatie, du monde politique et des députés pour quand même qu'ils puissent en débattre, puissent poser des problèmes et l'amorcer sous différents angles. C'est ça en tout cas l'objectif qui est visé. Maintenant, entre ce qui est dit et ce qui se fait réellement, il y a un petit décalage et on va avoir une participation de l'ordre de 500 personnes. Le nombre a diminué par rapport à la dernière édition. Il y aura 9 plénières dans des 3 blocs différents où on parlera de différentes choses, du terrorisme à l'accès aux ressources comme l'eau, les minéraux ou autres qui sont aujourd'hui des sources de conflit. Et essayer quand même de mettre en branle des recommandations qui seront soumises à la table ronde du chef d'État qui se tiendra le mardi après-midi.
Combien de chefs d'État doivent prendre part mardi à la séance finale?
Maintenant, je ne sais pas combien de chefs d'État seront réellement présents, puisque ça aussi, il y a une confusion générale. Ils n'ont pas communiqué et je n'ai pas encore eu connaissance des avions qui viennent de débarquer à Dakar transportant des chefs d'État.
Le journaliste sénégalais Ibrahim Khalil Ndiaye.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, après son démarrage la semaine dernière à Sikasso, le procès de l'ancien chef de la junte, Amadou Sanogo, n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Le procès bute principalement sur des incompréhensions entre les organisateurs et les avocats de la défense. Pour certaines personnes, toutes ces actions ne sont que des tentatives pour faire reporter le procès. Notre correspondant Kassim Traoré a recueilli quelques plaintes.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le report. Voilà, parce que pour moi, tout devait être planifié, en tout cas avant le jour J, qui est le 30 novembre. Donc c'est pas le jour J de la course qu'il faut apprendre quand même à courir.
Ce n'est pas une bonne chose, parce que les gens s'entendent à ça. Il y a la population réelle qui s'entend à ça. Il y a des gens qui savent pas ce qui s'est passé réellement. Il y a eu des enlèvements de personnes assassinées. Maintenant, il faut que la cour, ou bien on donne la voix aux accusés et à la partie civile d'exprimer, malgré les investigations sont faites par les officiers de police judiciaire.
Moi, personnellement, je me suis déplacé de Kouchala pour cette situation. Le mercredi, j'étais là, je n'ai pas pu entrer. Aujourd'hui encore, je suis revenu. On nous demande que ça a été reporté encore. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas content.
Direction maintenant la RDC, en marge de la journée internationale des personnes handicapées observée le 3 décembre. La République démocratique du Congo a organisé pendant le week-end à Goma son premier championnat de basketball en fauteuil roulant. Pour rappel, l'Est de la RDC a connu ces deux dernières décennies des conflits armés qui ont fait beaucoup de morts et de blessés dans la région. Suite à ces violences, le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, soigne depuis 12 ans plus de 6 600 blessés. À Goma, rejoignons notre correspondant Charlie Kasereka, reportage.
Le championnat s'est déroulé à l'esplanade de l'Institut supérieur de commerce de Goma. Durant 3 jours, un spectacle à couper le souffle a été présenté par 6 équipes. Dieu merci, un athlète venu de Bukavu, 17 ans, amputé de sa jambe gauche, après avoir reçu 3 balles perdues lors d'une guerre dans sa ville de Bukavu, partage ses sentiments.
Je me suis senti très à l'aise. D'ailleurs, je me considérais comme valide en jouant ce jour au basketball avec un grand public qui est venu nous assister.
François Kalonda, il est militaire, blessé de guerre en 2008, amputé aujourd'hui aussi d'une jambe. Pour lui, la joie a été de partager les mêmes terrains de jeu entre civils et militaires, tous handicapés, ces jours de la célébration de la journée dédiée aux personnes vivant avec handicap.
Je suis l'homme le plus heureux en jouant dans un groupe d'handicapés comme moi. Ici, la casquette de militaire était à côté quand je jouais avec nos amis civils.
La responsable de la Ligue paralympique Honor Kivu, Thérèse Mabulayi, souhaite voir dans les jours à venir l'intégration et la protection spéciale des personnes vivant avec handicap.
Nous avons voulu montrer les capacités dont regorgent les personnes handicapées, juste s'ils sont capables de faire du sport qui est aussi robuste que le basket fauteuil roulant. C'est que les autres domaines de la vie, les personnes handicapées ne doivent pas être exclues. Que ce soit les militaires, que ce soit les civils, nous sommes vraiment dans le même panier, on est un peu abandonnés. Tout ça, c'est parce qu'il y a absence de cette loi qui puisse réglementer tout ce à quoi nous avons droit.
Le Comité international de la Croix-Rouge au Nord Kivu, qui accompagne les victimes des conflits armés, se félicite d'avoir soutenu ses premiers championnats nationaux de basketball en fauteuil roulant. James est le délégué communication CICR au Nord Kivu.
Le soutien qu'on a fait, c'était partie de notre programme de réhabilitation physique qu'on a eu depuis 12 ans ici en RDC. On a appuyé 6 600 patients dans ces 12 ans avec des différents aides pour la mobilité, pour l'inclusion sociale. Et ces championnats font partie de ça. L'ambiance dans le terrain ici qui est derrière nous, c'était vraiment incroyable.
À marge de cette journée dédiée aux personnes vivant avec handicap, différentes associations regroupant cette catégorie de personnes ont profité pour plaider en faveur de la promulgation d'une convention sur les droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Les forces pro-gouvernementales en Syrie se rapprochent de leur objectif de reprendre le contrôle de la totalité d'Alep, deuxième ville de la Syrie, et ont déjà reconquis plus de 60% des secteurs tenus par les rebelles. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter aujourd'hui à New York une résolution demandant une trêve d'au moins 7 jours à Alep et un accès humanitaire aux habitants d'Alep Est pris au piège des combats. Le premier ministre français Manuel Valls va annoncer en fin d'après-midi sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, ont annoncé aujourd'hui ses services. L'entourage de M. Valls a confirmé à l'AFP qu'il annoncerait bien à cette occasion sa candidature à l'élection présidentielle qui ne faisait plus de doute après le renoncement du président socialiste François Hollande à briguer un second mandat. Les députés sud-coréens ont entamé aujourd'hui une série d'auditions inédites et soumettront l'élite entrepreneuriale du pays au feu de leurs questions au sujet du retentissant scandale de corruption dans lequel la présidente est menacée de destitution. Le scandale est centré sur la confidente de l'ombre de Mme Park, Choi Chun-sil, soupçonnée d'avoir extorqué à des groupes industriels des dons de près de 70 millions de dollars versés à 2 fondations douteuses. La présidente est accusée par le parquet de complicité avec son ami de 40 ans, arrêté début novembre pour fraude et abus de pouvoir, et accusé d'avoir détourné une partie des dons à des fins personnelles. Et puis, dans 15 mois, pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle à Cuba, un dirigeant non issu de la Révolution prendra les rênes de l'île. Et tout indique qu'il s'agira de Miguel Díaz-Canel, discret numéro 2 du régime depuis 2013. Avant même la mort de son aîné, le 25 novembre, Raúl Castro l'avait annoncé. Il passera la main à la jeune génération en février 2018 lors du prochain congrès du Parti communiste cubain, PCC. Au cours de cette grande messe du Parti unique, sera désigné le garant de la continuité de l'un des derniers régimes communistes de la planète en place depuis 1959. Jean-Roger Billon à ce micro. Vous retrouverez dans moins d'une heure Henri Francis pour un nouveau journal. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.